Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi
Ainsi
soit-il.
soit-il.
Réveillez-vous, Seigneur, aidez-nous et libérez-nous. Mes très chers frères, le dimanche de la Sexagésime comporte des textes très longs qui sont admirables parce qu'ils révèlent Dieu, notre Dieu, à l'œuvre dans sa création pour sa gloire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître, nous voyons avec admiration la grâce de Dieu à l'œuvre dans la personne de Saint Paul pour la propagation de l'Évangile. Et dans l'Évangile, nous voyons avec tremblement la grâce de Dieu à l'œuvre dans ceux que son incompréhensible dessein a donné à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons l'obligation que les chrétiens ont de porter du fruit, de porter des bonnes œuvres, et nous verrons que cette obligation des bonnes œuvres s'accompagne de celle de la défiance envers nous-mêmes. Et nous verrons comment l'Église nous apprend à nous juger nous-mêmes. En deuxième point, nous verrons l'alliance entre Dieu et son peuple qui fait que nous pouvons et devons demander l'aide de Dieu par le moyen de l'Église. Et enfin, nous verrons comment Saint Paul intercède pour nous et comment il s'avère le modèle des chrétiens. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous resterons surtout aujourd'hui autour de l'oraison, l'oraison collecte d'aujourd'hui. Ô Dieu, qui voyez qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance, accordez-nous contre toute adversité la puissante protection du docteur des nations. Pourquoi cette oraison? Eh bien, c'est qu'autrefois, la station de la Sexagésime était à Rome, dans la basilique de Saint-Pierre, de telle sorte que l'Église a conservé, même pour le dimanche, une oraison du dimanche, eh bien, une oraison avec la mention d'un saint dans cette oraison. C'est beaucoup plus qu'un vestige archéologique, c'est une évocation de Saint Paul comme en quelque sorte le modèle de tous les chrétiens. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'Écriture nous dit que Saint Paul est notre modèle et que nous devons l'imiter. Et il y a un certain nombre de choses à voir que nous verrons un peu plus tard avec l'aide du Saint-Esprit. Donc l'oraison qui est l'oraison d'aujourd'hui nous fait dire ceci à Dieu. Deus qui conspicis, quia ex nulla nostra actione confidimus. Ô Dieu qui voyez que nous ne nous confions dans aucune de nos actions. Mes très chers frères, nous aurions tort de croire que les premiers mots de cette oraison sont ceux d'un désespéré ou éventuellement d'un hétérodoxe. On dirait que cette oraison est une oraison de quelqu'un de dépité, la prière de quelqu'un de dépité qui n'a rien fait de bon et qui dit au Seigneur, Seigneur, vous voyez qu'aucune de mes actions ne m'inspire confiance. Mais en réalité, si nous étudions de près cette oraison, enfin, c'est-à-dire que si nous la regardons de près, si nous la prions de tout notre cœur, nous verrons bien que, bien entendu, l'Église ne nous met pas dans notre bouche, dans la bouche de tous les chrétiens de tous les temps, des paroles qui seraient des paroles circonstanciées de quelqu'un qui serait en marge de l'Église, voire à l'extérieur. L'Église nous apprend non seulement à prier, mais à avoir une juste appréciation de nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons voir. L'Église nous apprend à prier, mais elle nous apprend aussi à savoir, à connaître ce que nous sommes, à nous juger nous-mêmes, comme dit saint Paul ailleurs. Donc tout d'abord, nous disons à Dieu, Deus qui conspicis. Dieu qui voyait. Dieu tout d'abord. Nous invoquons Dieu sans aucune autre appellation que le nom qui le qualifie. Dieu. Dieu est Dieu. Deus. Ô Dieu en français. C'est cette invocation de Dieu, cette évocation de Dieu en tant que Dieu, nous place, nous, en tant que créature. Si nous disions Seigneur, c'est que nous sommes les esclaves de Dieu. Si nous disions notre Père, c'est que nous sommes ses enfants. Ô Dieu, ici, nous sommes les créatures de Dieu. Donc cette prière nous place dans un rapport de relativité entre nous, créatures, de nous, créatures, à Dieu, notre Créateur. Mais attention, c'est dans le cadre de l'Église. Donc c'est beaucoup plus qu'une prière qui peut être faite par n'importe qui. Au contraire, c'est la prière qui ne peut être faite que par les créatures qui sont des créatures recréées. Au Dieu qui avait créé la nature humaine et qui l'avait recréée d'une façon encore plus merveilleuse, nous fait dire la liturgie. Donc, Dieu ici, c'est le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire le Dieu des enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu ici se placent face à Dieu comme les créatures que Dieu vient de créer par le baptême. C'est très important de comprendre ça. Ensuite, il est dit Deus qui conspicis, Dieu qui voyait. Dans la traduction que j'ai sous les yeux, on dit au Dieu qui voyait. Mais, il y a plusieurs mots en latin pour exprimer l'action de voir. Il y a videre, qui signifie voir, comme en français. Il y a respicere, il y a conspicere. Ici, c'est conspicere, conspicio. Qui signifie voir, apercevoir quelque chose qui attire notre attention, parce que c'est une chose qui dure. Voyez? Le mot latin qui est utilisé ici nous exprime le fait que Dieu voit un fait patent. Il ne voit pas quelque chose de fugace, il n'aperçoit pas, il n'entreaperçoit pas, il voit quelque chose de fixe et de patent. Alors c'est moins quelque chose qui est, disons, qui est propre à lui que quelque chose qui est propre à nous. Dieu voit quelque chose de fixe et de patent en nous. Et que voit-il? Eh bien, disons-le tout de suite, il voit la défiance que nous nous portons. Donc, il ne voit pas, Dieu ne nous voit pas de temps en temps, dans certains moments d'accès, de désespoir, plein de défiance envers nous, et il l'aperçoit, et le temps qu'il s'en aperçoive, nous avons déjà changé de sentiment parce que l'homme est changeant. L'Église nous fait exprimer vis-à-vis de Dieu quelque chose qui nous apprend à être ce que nous devons être. Dieu doit voir habituellement en nous quelque chose. C'est pour ça que nous disons dans l'oraison Deus qui conspicis, Dieu qui contemplait, Dieu qui voyait quelque chose de patent. Et c'est la défiance de nous-mêmes qui doit être, c'est cette défiance de nous-mêmes qui doit être constante. Ô Dieu qui voyait que nous ne nous confions dans aucune de nos actions. Il ne s'agit pas ici d'un sentiment fugace, dis-je, mais c'est une nécessité pour nous que Dieu nous voit tout le temps dans une défiance vis-à-vis de nous-mêmes. Cette défiance, mes très chers frères, doit être constante, surtout quand nous sentons en nous l'ardeur de la foi et de la charité. Surtout quand, dans notre examen de conscience, nous n'avons pas grand-chose à déplorer. Surtout quand nous voyons les bons fruits de nos actions qui commencent à se voir et même à être éventuellement loués par les hommes. Cela se peut, et c'est une bonne chose. Nous ne faisons pas que des péchés quand même, nous faisons aussi des bonnes actions. Dieu doit pouvoir, à ce moment précis, constater notre défiance vis-à-vis de nous-mêmes. Donc vous voyez, loin de s'imaginer que c'est la prière d'un désespéré ou de quelqu'un qui est sur le point d'apostasier à cause de tous ses péchés qu'il voit et dont il ne sait pas comment se dépatouiller, si j'ose dire, c'est plutôt la prière d'un bon chrétien, d'une créature faite à l'image de Dieu, recréée à l'image du Fils de Dieu par le baptême, qui produit des bonnes œuvres et qui est capable d'être contemplée par Dieu dans un état de défiance perpétuelle et constante vis-à-vis d'elle-même, et comme je l'ai dit, spécialement lorsqu'elle aurait des raisons de se flatter de ses bonnes œuvres. Vous voyez, le pharisien dans le temple disait en quelque sorte des choses vraies, parce que notre Seigneur n'a pas dit qu'il mentait. Notre Seigneur n'a pas dit que cet homme mentait effrontément à Dieu parce qu'il ne jeûnait jamais, parce qu'il ne faisait jamais la dîme, parce qu'il ne... Non! Cet homme a dit quelque chose qui finalement ne l'a pas justifié. Pourquoi? Parce qu'il s'est approprié tout le bien que la grâce de Dieu avait fait en lui. Donc Dieu doit pouvoir, conspicere, si j'ose dire, doit pouvoir constater en nous une constante défiance de nous-mêmes, spécialement quand nous persévérons dans le bien. Alors, évidemment, je vous entends penser, vous êtes en train de dire, eh bien, si nous n'étions pas désespérés au début de ce sermon, nous le sommes maintenant, puisque on nous demande d'être constamment en défiance de nous-mêmes, surtout quand nous allons bien. Alors, si nous devons nous défier de nous-mêmes quand nous faisons le mal, ça va. Mais quand nous faisons le bien, quand même, on peut avoir une certaine fierté de ce que nous faisons. Erreur, mes très chers frères, c'est une grande erreur. Dieu doit pouvoir constater que nous ne mettons jamais, à aucun moment, notre confiance dans les bonnes actions que la grâce nous fait faire. Pourquoi ? Parce que nous devons être dans une défiance vis-à-vis de nous-mêmes, constamment. Allons un peu plus loin. Deus qui conspicis, donc Dieu qui constatait, qui voyait, quia, donc ce fait suivant qui va être énoncé, quia ex nulla nostra actione confidimus, que nous ne nous confions en aucune de nos actions. En nulle de nos actions, ex nulla, pas une seule. Est-ce que c'est la justification, mes très chers frères, de l'incurie, de la négligence? Non, bien sûr, puisqu'il est dit, ex nulla nostra actione, en aucune de nos actions, en aucune de nos actions. C'est-à-dire que nos actions ici ne sont pas qualifiées. Donc on pourrait penser, bien sûr, ce sont des actions mauvaises. Non, ce sont les actions bonnes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faudrait vraiment être complètement stupide pour mettre sa confiance dans une action mauvaise. Il est dit ici, ô Dieu qui voyait que nous ne nous confions en aucune de nos actions. Qui se confie dans ses péchés, mes très chers frères ? Personne. Personne, bien entendu. En tout cas, aucun bon chrétien. Donc personne. Donc actionné ici est pris dans un sens absolu, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons par la concupiscence n'existe pas. Ce sont des mauvaises actions, ce ne sont pas des actions, ce sont des péchés. Et tout ce que nous faisons par la charité s'appelle, à proprement parler, une action, une œuvre. Et c'est dans pas une seule de ces œuvres que nous mettons notre confiance, et nous allons voir pour quelles raisons. Il s'agit donc des actions ici, des bonnes œuvres, et non des péchés. Toute action du chrétien doit être bonne, doit être méritoire, doit être accomplie avec la charité, à l'exclusion de la cupidité. Et en même temps, toute action bonne du chrétien ne doit lui inspirer aucune confiance. Voilà quelque chose qui est intéressant, et si nous l'intégrons dans notre forma mentis, et si nous vivons d'après cette connaissance doctrinale, alors véritablement, mes très chers frères, nous aurons réussi à être capables de prier de tout notre cœur et dans un esprit de vérité, cette oraison que l'Église met dans notre bouche aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, il faut la prier, donc il faut correspondre à l'attitude qu'elle implique. Ô Dieu qui voyait que nous ne nous confions dans aucune de nos actions, donc aucune de nos bonnes actions. Et puis, confidimus, que nous confions. Vous voyez, la traduction que j'ai sous les yeux est bonne, mais elle est un peu lénifiante. Ô Dieu qui voyait qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance. C'est-à-dire que nous avons toujours un doute de savoir si elles sont bonnes. Non, c'est pas tellement ça, c'est une bonne traduction. Mais disons que ce n'est pas ça la traduction littérale. La traduction littérale est beaucoup plus forte. Ô Dieu qui voyait que nous ne nous confions dans aucune de nos actions. Que signifie ici se confier dans nos actions, ou se confier, avoir confiance ? Eh bien, c'est avoir la confiance au jugement dernier. Au jugement dernier, Dieu jugera le principe de nos actions, la charité ou la concupiscence. Il n'y a que deux principes à nos actions. Ou bien nous faisons les actions pour l'amour de Dieu, ou bien nous les faisons pour l'amour de nous-mêmes, ou pour l'amour de quelque chose d'autre, d'une créature, que sais-je, la charité ou la concupiscence. Bien sûr, il peut y avoir une charité plus ou moins teintée de concupiscence. La concupiscence est toujours la concupiscence, mais la charité peut être plus ou moins parfaite. Néanmoins, il faut faire nos actions ou bien par la charité ou bien par la concupiscence. Donc, nous nous confions. Nous avons confiance. Nous avons confiance, mais pas dans nos actions. Et avoir confiance ici, c'est avoir confiance quant à le résultat final. C'est pas que nous avons confiance, qu'elles sont bien faites, que nous avons confiance, tout ça, ce sont des choses tout à fait qui n'entrent pas du tout dans le cadre de ce qui est dit ici. Quand nous disons que quand un étudiant dit la qualité de mes révisions m'inspire confiance, on ne va pas dire ah bon ben voilà, il a confiance qu'il a bien révisé. Il a confiance parce qu'il a confiance pour le jour de l'examen. J'ai bien révisé, Mes révisions m'inspirent confiance. Confiance, pourquoi? Pour le jour de l'épreuve. Nos actions ne nous inspirent aucune confiance. Pourquoi? Pour le jour de la grande épreuve, pour le jour du jugement dernier. Il ne faut pas s'imaginer, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, que nous devons arriver au jugement dernier, nous préparer notre apparition devant Dieu au jugement dernier avec notre petite cagnotte, et une fois que le bon Dieu nous interrogera, eh bien nous ouvrirons nos comptes, nos coffres, nous sortirons nos carnets de comptes en disant « Voilà, mon Dieu, regardez tout ce que j'ai fait pour vous. Ah oui, c'est bien, effectivement, je m'aperçois que c'est bien. Venez donc dans la gloire, cher enfant, etc. » Non, ça ne se passera pas comme ça. Notre Seigneur jugera, nous jugera sur le principe de nos actions. Or, le principe de nos actions, c'est donc la charité, puisque nous devons exclure la concupiscence, ce principe n'est pas un principe qui serait une sorte de tiers par rapport à Dieu. Il y a Dieu, il y a l'homme, et il y a le principe des actions de l'homme. Le principe des actions de l'homme, c'est Dieu, puisque Deus est caritas, Dieu est charité. Et si le principe de nos actions doit être la charité, alors ça veut dire que le principe de nos actions, ce n'est autre que Dieu, ce Dieu même qui nous jugera au jugement dernier. Alors vous allez dire, mais justement, si nos actions sont bonnes, si elles sont faites avec la charité, nous devons avoir confiance. Erreur, mes très chers frères. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir confiance est déjà un mouvement d'appropriation. Vous allez dire, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Si je vais trop loin, je vous fais remarquer que je ne fais que commenter la raison d'aujourd'hui. Donc si je vais trop loin, c'est que c'est l'Église qui va trop loin. Vous voyez, je ne suis que le répétiteur de l'Église. Deus, ô Dieu, qui voyait qu'aucune de nos actions, donc bonnes, ne nous inspire confiance. Qui voyez que nous ne nous confions en aucune de nos actions. Qu'est-ce que ça signifie? Que veut nous dire l'Église? Quand nous faisons une action bonne, mes très chers frères, et nous le devons, nous ne devons faire que des actions bonnes, ayant comme principe la charité. Eh bien, quand nous faisons une action bonne, nous devons immédiatement en reporter toute la gloire à Dieu. De peur que notre concupiscence, qui est quand même coextensive à ce que nous sommes, ne commence à s'en emparer, et ne commence à avoir confiance pour le jour du jugement dernier en une action que nous avons faite, abstraction faite de celui qui nous l'a fait faire, Dieu, qui est charité. Donc véritablement, il y a un trésor de mérite qui s'accumule au ciel, là où les voleurs ne percent et ne dérobent, là où la teigne et la rougne ne viennent pas dévorer les choses, bien entendu. Il y a un trésor qui s'accumule au ciel, mais au ciel, il y a Dieu, et c'est lui qui est notre trésor. Vous voyez, mes très chers frères, ce n'est pas comme si Dieu gardait notre cagnotte loin des voleurs. Quel est le voleur? C'est nous les voleurs. Et comment est-ce que nous volons notre propre cagnotte, si j'ose dire, notre propre trésor, en nous l'appropriant? Ô Dieu qui voyez que nous ne nous confions dans aucune des bonnes œuvres que nous faisons et que nous sommes obligés de faire, car le chrétien ne doit faire que des actions qui procèdent de la charité. Nous nous confions en notre Seigneur Jésus-Christ, dont la grâce est le principe de nos mérites. Nous devons absolument faire des bonnes œuvres, mais nous ne devons avoir aucune confiance dans ces bonnes œuvres. Nous devons absolument faire ces bonnes œuvres que nous pouvons faire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est donnée en vertu du baptême que nous avons reçu. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême sont incapables de faire des œuvres méritoires car ils n'ont pas accès encore à la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce du réparateur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont baptisés doivent faire des bonnes œuvres, mais ils ne doivent avoir aucune confiance en elles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit tout le temps en train de dire « Oui, mais je ne sais pas si vraiment c'est une bonne œuvre, je ne sais pas, etc. » et casser les pieds aux gens par leur humilité mal placée. Bien sûr que non. Nous devons faire de notre mieux pour agir de façon aussi parfaite que nous le pouvons. Et nous savons que nous n'agirons jamais vraiment de façon aussi parfaite que nous le pouvons. Néanmoins, nous devons essayer avec l'aide de la grâce de Dieu. Et quand nous aurons fait une œuvre bonne, parce que nous pouvons le faire, ce n'est quand même pas si difficile à faire puisqu'il s'agit de faire tout ce qui relève de notre devoir d'État pour l'amour de Dieu, c'est ça, faire les œuvres bonnes, hein, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. Eh bien, lorsque nous aurons fait une œuvre bonne, chaque fois que nous faisons une œuvre bonne, nous devons en reporter tout le crédit à Dieu, spécialement à notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, dont la grâce est le principe de nos mérites. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, sans lui, nous sommes dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit de bon et de méritoire. Une fois que nous aurons fait les choses bonnes et méritoires, nous devons veiller très soigneusement à n'avoir aucune confiance dans ce que nous avons fait, parce que c'est nous qui les avons faites, mais en celui qui nous les a fait faire, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Cette défiance n'est pas l'aveu, mes très chers frères, de notre stérilité, mais le refus de nous arroger la gloire de notre fécondité. Voilà quelque chose d'extrêmement important. Nous devons être féconds en bonnes œuvres, mais nous devons avoir un très grand soin de ne rien nous arroger de ces bonnes œuvres, de la gloire de ces bonnes œuvres, de peur que ces bonnes œuvres ne s'évanouissent et ne deviennent comme cette manne divine que nos pères dans le désert ramassaient, ne deviennent finalement mal employées, mal gérées, si j'ose dire, remplies de vers et une infection. Voilà la première chose que nous avions à voir, voilà comment l'Église nous apprend notre devoir absolu et nécessaire de faire des bonnes œuvres, et notre devoir non moins nécessaire de nous défier de tout ce que nous faisons, c'est-à-dire de nous défier de nous-mêmes et de ne pas mettre notre confiance dans nos bonnes œuvres, mais dans celui qui nous les fait faire, la charité de Dieu, Dieu lui-même. Ensuite, c'est notre deuxième point, nous disons à Dieu, concede propitius. Alors là, il y a quelque chose de très important. Nous voyons souvent le mot quesumus dans les oraisons, et ce n'est quand même pas pour rien que l'Église les utilise, ces mots, et ce n'est pas pour rien non plus que dans certaines oraisons, elle ne les utilise pas. Quesumus, nous avions dit que c'est l'équivalent de s'il vous plaît. Ici, nous ne disons pas à Dieu s'il vous plaît, nous disons concede propitius. Accordez, concédez, propitius, soyez, vous qui êtes propiciable, qui nous êtes propice, accordez-nous. Le ton est ferme. Non pas que nous ne soyons pas fermes quand nous disons à Dieu s'il vous plaît, quesumus, mais enfin, il y a un aspect très humble et très, il y a une sorte de lamentation, s'il vous plaît, donnez-nous. Ici, en quelque sorte, parce que l'Église nous fait une nécessité de ne pas nous confier dans nos actions, curieusement, nous parlons à Dieu avec un ton très ferme. C'est proportionnel. Moins nous nous confions en nous, plus nous avons confiance en Dieu. Aucune de nos actions ne nous inspire confiance. Seigneur, vous qui nous êtes propice, accordez-nous. Le ton est ferme, car il procède du rapport que nous avons à Dieu au sein de l'alliance qu'il a faite avec nous, avec son peuple, l'Église, par le sang de son Fils. Concede signifie accordez-nous. Accordez-nous, nous qui nous réclamons de votre promesse. Nous qui faisons partie de votre alliance, nous avons en quelque sorte, et nous le disons avec crainte et tremblement, mais avec une très grande assurance, nous avons le droit de vous demander quelque chose. Nous avons le droit, nous qui, dans le sein de votre alliance, ne nous confions en aucune des bonnes œuvres que votre grâce nous fait faire, nous avons le droit de vous demander que vous nous accordiez quelque chose. Propitius, nous savons que votre miséricorde est le fondement de notre relation avec vous en Jésus-Christ. Dieu nous a aimés, et Dieu a donc un a priori favorable envers les baptisés, car ils sont membres de son Fils bien-aimé. C'est voilà quelque chose qui, d'une certaine manière, est propre à raffermir les plus tremblants, les plus vacillants, les plus faibles d'entre les chrétiens. Dieu a un a priori favorable vis-à-vis des baptisés. C'est-à-dire que Dieu ne nous regarde pas avec colère comme il regarde les non-baptisés, Dieu ne nous regarde pas avec indignation comme il regarde les hérétiques et les schismatiques, Dieu nous regarde avec un a priori de faveur. Voilà pourquoi nous disons propitius. Dieu nous est a priori propice en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si j'ose dire, ne gâchons pas cette occasion, ne gâchons pas ce regard favorable a priori que Dieu a sur nous. Lorsque un père regarde ses enfants, un regard favorable a priori. Après, évidemment, il peut découvrir que ses enfants sont méchants, il peut découvrir que ses enfants sont désobéissants, que ses enfants sont des ordures, effectivement, mais a priori, puisque ce sont ses enfants, il part du principe que ses enfants ne peuvent pas être mauvais. Eh bien, voilà la situation dans laquelle nous sommes lorsque nous sommes baptisés et lorsque nous sommes inclus dans cette alliance que Dieu a faite avec nous. Dieu nous est favorable. Vous voyez, cette audace que l'Église nous permet d'avoir, et même nous met dans notre bouche, nous oblige à avoir, dans la mesure où nous confions plus du tout et pas du tout dans nos actions. Nous n'avons pas du tout confiance en nos actions, donc nous avons une très grande confiance vis-à-vis de Dieu qui nous fait faire nos actions, grâce auxquelles nous pouvons faire nos actions bonnes. Concede propitius, accordez-nous, vous qui nous êtes miséricordieux, vous qui nous êtes propice, accordez-nous, quoi donc? Ut contra adversa omnia, doctoris gentium protectione moniamur. Afin que, accordez-nous, que, ut, contre toute adversité, le docteur, la protection, nous soyons munis, nous soyons protégés par la protection de la protection du docteur des nations, c'est-à-dire Saint Paul. Nous sommes pris, mes très chers frères, en tenaille, en tant que chrétiens, entre d'une part la stérilité et d'autre part l'orgueil. C'est-à-dire que si nous sommes stériles, nous ne pouvons plus dire à Dieu que nous ne nous confions pas dans nos bonnes actions, puisque nous n'en avons pas. D'un autre côté, si nous avons des bonnes actions, le diable nous tente, ou plutôt la chair nous tente, à être orgueilleux. Notre paresse a tendance à nous rendre stériles, notre orgueil a tendance à nous rendre évidemment orgueilleux, notre concupiscence a tendance à nous rendre orgueilleux. De plus, le monde, la chair et le diable s'efforcent de nous faire porter des fruits inutiles. Ce sont ces fameuses feuilles dont parlent certains pères, notamment je pense à Saint Thomas par exemple. Les feuilles, c'est bien, mais c'est les fruits que Dieu demande. Il y a des arbres fruitiers qui portent beaucoup de feuilles, mais alors les feuilles, c'est nécessaire à l'arbre, parce que sinon l'arbre est en mauvaise santé, il n'arrive pas à porter de fruits. Mais enfin, si l'arbre ne porte que des feuilles, il ne sert strictement à rien. Un arbre complètement stérile ne peut pas dire, ben, au moins à son propriétaire, ben, regardez, je donne des belles feuilles. Les feuilles, d'une certaine manière, on s'en moque éperdument. Les feuilles sont nécessaires à porter des fruits, mais les feuilles ne se mangent pas, que je sache. Quand on va sur un oranger et puis qu'on veut chercher des oranges, on ne va pas se contenter devant un oranger stérile de prendre des feuilles et puis de les manger. Ce n'est pas bon, ça ne se mange pas les feuilles d'oranger. Pourtant, l'oranger porte des oranges, normalement. Donc, c'est la même chose pour les chrétiens. Les chrétiens peuvent faire toutes sortes de choses qui leur donnent un aspect très vert, c'est très, très verdoyant, si j'ose dire, et ce sont toutes sortes de choses que les chrétiens font, parce que les chrétiens, d'une certaine manière, sont meilleurs que les autres, donc du coup, ils font toutes sortes de bonnes choses. La seule chose, quand on y regarde de près, ça ne vaut pas plus que les œuvres des païens, puisque ce ne sont pas des fruits. Que de sève utilisée en vain, si j'ose dire, dans cet arbre mystique. Que d'efforts pour ne porter que des feuilles qui sont tout à fait inutiles lorsqu'il s'agit pour le jardinier, le divin jardinier, de récolter son fruit, le fruit qu'il veut, dont il a besoin et qu'il s'attend que nous portions. Donc vous voyez, d'une part, nous sommes tentés par la stérilité, d'autre part, nous sommes tentés par l'orgueil, et entre les deux, si j'ose dire, nous sommes tentés de faire des actions qui sont inutiles, c'est-à-dire qui ne servent pas à notre salut. C'est cela les adversités, c'est cela toutes les adversités. Certains commentateurs disent que l'Église est ici très vague, ou très généraliste en quelque sorte, afin que tout le monde puisse mettre à la place de cette expression les adversités, l'adversité, toute adversité, ce qui lui est propre. Effectivement, les adversités qui lui sont propres. Effectivement, nous avons tous des épreuves différentes, nous avons tous des tentations différentes, nous avons tous, même si elles se ressemblent toutes, mais enfin, nous sommes tous dans des situations différentes, nous avons tous des adversités, et c'est contre elles, contre ces adversités, qui se réduisent donc, comme je l'ai dit, à la stérilité ou à l'orgueil, ou alors à l'inutilité, que nous demandons à Dieu la protection du docteur des gentils. Saint Paul, c'est notre saint patron. Les gentils ont pour saint patron saint Paul, les juifs aussi évidemment, mais enfin disons que c'est surtout saint Paul. Les juifs ont plutôt saint Pierre, comme saint Pierre c'est le docteur des juifs et saint Paul c'est le docteur des nations, c'est comme ça que l'Église les qualifie. Donc saint Paul c'est notre saint patron qui a tant souffert pour le soin des églises. Écoutez ce qu'il dit, outre ces mots qui sont extérieurs, et ils sont assez terrifiants tout ce qu'il a souffert, il y a ce qui me préoccupe chaque jour, le soin de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, que je sois faible, et que je ne sois faible, qui est scandalisé, que je brûle. Saint Paul, dont l'ardeur missionnaire et apostolique était tellement grande ici-bas, est toujours le même Saint Paul dans le sein de Dieu. Il l'est même beaucoup plus, si j'ose dire. Ce qu'il était ici-bas par la grâce de Dieu, et c'était un modèle, et c'est des plus grands de tous les chrétiens, eh bien, nous devons comprendre qu'il l'est toujours. Donc, invoquer Saint Paul ici, ce n'est pas faire mémoire, disons, des travaux de Saint Paul et se souvenir qu'il fut un temps où la station étant à Saint Paul, etc. Bon, non, tout ça, c'est très bien. Saint Paul est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est plutôt nous qui sommes morts ici-bas sur terre, à vivre la vie d'exilés. Saint Paul est vivant au ciel. Donc, c'est son intercession que l'Église nous fait très officiellement demander à Dieu aujourd'hui, contre toute adversité, l'adversité de la stérilité, de l'orgueil ou de l'inutilité. Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui nous arme toujours, nous disent les commentateurs, mais par la médiation de l'Église. Nous pourrions dire à Dieu, afin que nous soyons, que contre toute adversité, nous soyons protégés par votre grâce. C'est vrai, ça serait fondamentalement vrai. Mais l'Église nous fait dire par la protection de Saint Paul, l'intercession de Saint Paul, du docteur des nations. Pourquoi ? Eh bien parce que nous devons comprendre que si aucune de nos bonnes actions ne doit nous inspirer confiance, si nous pouvons avec une certaine audace dire à Dieu, accordez-nous, vous qui nous êtes, qui avez un a priori favorable en Jésus-Christ vis-à-vis de nous, nous devons dire, Seigneur, accordez-nous votre grâce par l'intermédiaire de l'Église, par la médiation de l'Église. Se retrancher de l'Église, d'une manière ou d'une autre, c'est devenir incapable de recevoir la grâce. Et on se retranche de l'Église par l'hérésie, on se retranche de l'Église par le schisme, mais je vous fais remarquer aussi qu'on peut se retrancher de l'Église en se proclamant, par exemple, le sauveur de l'Église ou le défenseur de l'Église autoproclamé. On n'a aucune mission, on veut, ou alors des pseudo-missions, et on veut avoir une action vis-à-vis de l'Église, ça procède d'une bonne intention, je ne dis pas le contraire, mais il se trouve qu'il y a Dieu, il y a l'Église, et puis il y a nous, et nous avons des comptes à rendre à l'Église, à Dieu, vis-à-vis de l'Église. Non, il n'y a qu'une relation entre Dieu et l'Église, dont nous sommes membres. Et éventuellement, on nous demande de faire quelque chose pour l'Église. Vous voyez ? Attention au rôle de défenseur autoproclamé, on n'est parfois pas très loin du schismatique ou de l'hérétique, du point de vue de la situation. Pas de la foi, mais de la situation. Donc, se retrancher de l'Église, en sortant de l'ordre ou en sortant carrément de l'Église, c'est devenir incapable de recevoir la grâce. D'où la stérilité de l'activisme. Cet activisme dont parle si bien le Saint-Pape Pie XII, lorsqu'il parle en quelque sorte, l'hérésie des œuvres. Vous voyez, le fait de faire des choses pour l'Église et finalement de se séparer de l'Église. Et surtout cet activisme, malheureusement, je dois le dire, mes très chers frères, qui prend pour un minimum acceptable une base naturelle. Vous savez, quand tous ces activistes catholiques qui vous disent alors il faut être catholique, enfin au moins l'essentiel c'est d'être patriote, l'essentiel c'est d'être nationaliste, l'essentiel c'est d'aimer la France, oui, c'est très bien, mais c'est un minimum qui est un minimum qui n'est pas acceptable pour le catholique. Le minimum, c'est d'être catholique orthodoxe. Sinon, tout le reste, c'est du vent. Ce n'est pas du vent sous un certain rapport, mais c'est du vent du point de vue de l'éternité, et puis même du point de vue temporel, en réalité, c'est du vent, puisqu'on bâtit sur du sable. Ça, c'est une autre chose. Donc, voyez, mes très chers frères, nous ne devons demander à Dieu sa grâce que dans l'Église. Et être dans l'Église, c'est être à sa place dans l'Église. La protection de Saint Paul, c'est le dernier point. Protection, la protection, que nous soyons munis de la protection du docteur des nations. C'est son patronage. La longue épître que nous avons entendue tout à l'heure, mes très chers frères, nous montre comment Dieu a traité l'apôtre des gentils. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport au pseudo-apôtre qui était à Corinthe et qui asservissait et tyrannisait les chrétiens, nous n'entrerons pas dans les discussions de savoir qui ils étaient, etc., c'est tout à fait hors de notre propos ici. Enfin, il y avait des apôtres, des pseudo-apôtres, ce n'étaient pas les apôtres, mais enfin, il y avait des gens qui se bombardaient directeurs des aveugles et des gentils, et qui, d'une certaine manière, ne pensaient qu'à amasser des richesses et à tyranniser les chrétiens. Quand on voit Saint Paul, écoutez un petit peu, j'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, des coups sans mesure, j'ai été souvent en danger de mort, j'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups de fouet moins 1. On réputait dans cette, c'était une punition très très dure, et de recevoir 40 coups de fouet. Et l'idée, c'était que 40 coups de fouet étaient mortels. Donc, on faisait 40 coups de fouet moins 1. Et il a reçu 5 fois. Il a été 3 fois battu de verge, ce qui est une punition encore plus forte. J'ai été lapidé une fois. Effectivement, vous avez lu dans le livre des Actes des Apôtres, Maître Échafaud, la fois où il a été lapidé. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. Et puis ensuite, il parle de des périls, etc., de la faim, de la soif, de la nudité, de la chaleur. Voilà comment Dieu traite l'or, Maître Échafaud. Voilà comment Dieu traite ceux qui sont ses élus. Voilà comment Dieu traite ceux qu'il aime. Si le Fils de l'homme n'avait pas de lieu où poser sa tête, saint Paul, si l'on peut dire, à partir de sa conversion, n'avait aucun lieu où il pût être en sécurité, en sûreté. Dans cet épître, où il se glorifie à contre-cœur, étant obligé de montrer qu'il n'était en rien inférieur aux faux apôtres qui tyrannisaient les chrétiens de Corinthe, eh bien, il nous dit que non seulement tout ceci fait de lui quand même un apôtre authentique par la souffrance qui ont été les siennes pour notre Seigneur, mais en plus, tout ceci n'était rien, tout ceci n'était que de l'extériorité par rapport aux soins qu'il avait des églises. Et puis, il a reçu des révélations ineffables. Non seulement il a été persécuté pour le Christ dans le cadre de son ministère, non seulement il était un véritable pasteur, puisque avec Saint-Pierre, il avait ce grand soin des églises qui faisait que même Saint-Pierre, Saint-Paul en a pris soin en lui faisant certaines remontrances, mais encore, il dit, et d'une façon mystérieuse, qu'il est monté au ciel, en son corps, dans son corps, peu importe, mais Dieu le sait, mais il est monté au troisième ciel et il a été ravi dans le paradis et il a entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Saint Paul est vraiment un chrétien complet auquel il ne manque rien. Et pourtant, du point de vue des sens, c'était le plus mortifié de tous les chrétiens. Mais, dit-il, comble de tout cela, de peur que la grandeur de ces révélations ne m'enorgueillît, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est-à-dire qu'il devait être humilié par cet ange de Satan, cet aiguillon dans sa chair. Alors certains pères disent que c'était des tentations de la concupiscence, d'autres que c'était une maladie comme les maux de tête ou des maux d'entrailles. Enfin, ça dépend, enfin, ça peut être tout ça à la fois d'ailleurs. Même saint Paul, même ce saint Paul, ce saint Paul qui est allé au ciel et qui est revenu sur la terre, eh bien, même cet homme-là, même ce champion, cet athlète, a dû être maintenu dans l'humilité. Écoutez ce que dit un commentateur. Un saint Paul a besoin d'un contrepoids si humiliant, et les plus faibles des chrétiens oseraient se jeter dans les plus grandes tentations d'orgueil et de vanité sans nécessité et sans précaution. Vous voyez, mes très chers frères, quand l'Église nous dit que aucune de nos actions ne nous inspire confiance, que nous ne nous confions dans aucune de nos actions, s'il y a quelqu'un qui aurait pu penser qu'il pouvait mettre sa confiance dans ses actions, c'est bien saint Paul. Eh bien, saint Paul, non seulement ne mettait pas sa confiance dans ses actions, mais encore, afin qu'il ne mette pas sa confiance dans ses actions, Dieu lui a apposté, si j'ose dire, spécialement un ange de Satan pour l'humilier en permanence. Et nous, lorsque nous faisons un peu de bien, lorsque nous arrivons à faire le tour de force de faire une action sans trop de concupiscence, et avec quand même une certaine majorité d'amour de Dieu, il nous semble que nous sommes déjà un saint, que nous allons marcher sur l'eau, que nous allons être en lévitation, et il nous semble aussi qu'on pourrait nous traiter avec un petit peu plus de respect, puisque nous faisons des efforts, nous, pour Dieu, alors que nos frères en font si peu. Mes très chers frères, si saint Paul lui-même a eu besoin d'un tel contrepoids, à combien plus forte raison nous, devons-nous nous défier de nous-mêmes, tout en faisant le bien ? Saint Paul, et les commentateurs sont formels sur ce point, saint Paul a prié avec instance. C'est pour cela qu'il dit, c'est pourquoi j'ai, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a prié avec instance. En vain, nous dit un auteur, en vain applique-t-on les autres remèdes à de si grands maux si la prière n'y est jointe, car la plus dangereuse des tentations et de se croire assez fort et de ne pas appeler Dieu à son secours. Il arrive parfois, mes très chers frères, que quand nous avons fait plusieurs bonnes actions et que nous sommes dans une sorte de phase où la concupiscence est diminue parce qu'elle est vaincue et que la charité triomphe, il nous semble que du coup nous n'avons plus tellement besoin de prier puisque tout va bien. Erreur, mes très chers frères. C'est là où nous avons besoin de plus prier. Et si nous ne prions pas et que Dieu veut quand même notre salut, alors Dieu nous enverra peut-être, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi durement que pour Saint Paul, mais enfin, il nous enverra des aiguillons, il nous enverra des tentations qui nous humilieront pour nous obliger à recourir à lui. La plus grande des tentations, mes très chers frères, la plus dangereuse des tentations est de se croire assez fort et de ne pas appeler à Dieu à son secours. Saint Grégoire dit que l'humilité est la conservatrice de la vertu. Bienheureux celui qui est humble, c'est-à-dire qui ne se confie dans aucune des bonnes œuvres qu'il fait et qu'il doit faire, je le répète. Bienheureux celui qui est humble, qui est, si j'ose dire, spontanément humble, c'est-à-dire qui a assez d'amour de Dieu pour allier aux bonnes œuvres l'humilité. L'humilité, dit Saint Grégoire, pape encore, l'humilité est la conservatrice de la vertu. Et Saint Grégoire dit, notre santé se maintient en son entier lorsque, par la conduite de la miséricorde divine, nous sommes tentés, tantôt par des persécutions, tantôt par des vices, en telle sorte que nous puissions les supporter sans succomber. Il faudrait étudier cette citation d'un peu plus près, parce qu'il y a quelque chose de très fondamental pour la vie chrétienne, mais pour la vie chrétienne des chrétiens qui sont déjà un petit peu, disons, qui sont de bons chrétiens. C'est-à-dire que Dieu nous demande, dans la prière du Pater, de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Mais il se trouve que le fait de ne pas succomber à la tentation n'est pas synonyme du fait d'être exempté de la tentation. Et que bien souvent, des tentations de telle ou telle sorte, eh bien, subsistent afin de nous garder humbles. Et c'est ce qui est arrivé à Saint Paul. Vous voyez, notre intérieur se maintient en son entier, dit Saint Grégoire. Notre intérieur, c'est-à-dire notre homme, l'homme nouveau. Il se maintient en son entier, pas forcément parce qu'il est inaccessible aux tentations, mais parce que les tentations lui rappellent, les tentations auxquelles il ne cède néanmoins pas, lui rappellent que tout le bien qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, c'est la grâce de Dieu qui le fait en lui, et c'est lui qui le fait par la grâce de Dieu. Relisons donc cette oraison, mes très chers frères, et terminons. Ô Dieu, qui contemplait ce fait patent, que nous ne mettons notre confiance en vue du jugement dernier dans aucune des bonnes actions que par notre baptême nous sommes obligés et tenus de faire, accordez-nous, vous qui nous êtes a priori propices, accordez-nous d'être protégés, d'être munis contre toute adversité, c'est-à-dire la stérilité, l'orgueil ou l'inutilité, que nous soyons, accordez-nous d'être contre toute adversité, que nous soyons munis de la protection du docteur des gentils, qui a tant souffert pour vous, et qui a tant reçu de grâce de vous, que vous l'avez protégé contre lui-même, la plus grande des adversités, en lui donnant, en lui apostant cet ange de Satan qui le soufflette. Travaillons à notre salut, mes très chers frères, et mettons notre confiance qu'en la grâce de Dieu qui nous rend forts pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.